France Inter.
Bonjour, bienvenue, c'est la bande originale.
Bonjour.
Version 2025, le meilleur de la bande originale.
Oui,
Leïla,
aujourd'hui, du bon, du très bon, du grand classique revisité, le bourgeois gentilhomme version Jean-Paul Roux.
Ah, j'espère qu'il est venu avec Jeff Tuch.
Bienvenue Jean-Paul, bienvenue et merci de venir nous parler de ce bourgeois gentilhomme, ce Molière que vous interprétez, revisité par Jérémy Lipman. Ça se passe au Théâtre Antoine et ça se passe bien, avec
ça se passe trop bien.
Des rappels, des ovations. Et merci malgré tout de faire de la promotion et de venir à cette
émission. Non, je suis super content de venir.
Jean-Paul, on va évidemment parler de cette version entre guillemets du bourgeois gentilhomme, mais d'abord...
Mais on va parler de moi surtout.
Non, pas du tout. Petit tour de table, ce sont les autres qui vont parler d'eux, puisqu'il y a un maître de ballet,
un maître de musique, ouais. Un maître de philosophie. Ouais.
Alors justement, si vous aviez un cours particulier, si vous convoquez un prof chez vous, vous aimeriez qu'il vienne vous enseigner quoi? Imaginez que vous devenez des bourgeoises et des bourgeois, et ouais, là vous avez j'imagine. Le droit à des cours particuliers.
Ah, mais tout.
Qui viendrait à la maison te donner des cours de quoi?
Bah, tout. Tout, moi je prends tout, je ferai ça toute la journée.
Non, mais on t'a pas demandé ce que tu faisais le week-end.
Oh,
tu veux apprendre par
tout.
Ok, mais alors le truc, t'as droit à un prof.
Oh.
T'as pas compris la règle du jeu.
Je crois l'histoire.
Alors vas-y.
Moi je pense l'histoire, parce que j'ai trop du mal à retenir l'histoire.
J'ai trop de mal.
Un prof d'histoire.
Ouais, un prof d'histoire.
Ouais, bah, commence par le prof de français, ouais. Oui.
Oh,
non, mais non, j'ai...
Oh, c'est gratuit, ça va.
C'était facile.
C'est bon, c'est gratuit, mais tu sais qu'on t'aime, arrête un peu.
Arrête de pleurer, ça m'énerve.
Mais non, mais Nagui, je n'en peux plus.
Bah lui, il faudrait un prof d'empathie, voilà.
Je crois que c'est mort.
Coach, Tom Baldetti, si un prof venait te donner un cours à la maison, ça serait... Non, mais ça peut être un...
Je sais pas, de la harpe.
Musique, ok. Ok.
Ah ouais. La harpe, musique. Précisément. Je trouve
pas
ça
mal.
Un peu nul, alors je trouve ça cool.
T'as trouvé, Leïla?
Toujours pas.
Toujours pas, ok.
Donc, alors moi, de l'économie, parce que j'arrive jamais à négocier mes salaires.
Ah, c'est pas vrai.
Non, mais
ah,
arrêtez, voilà. c'est pas des profs.
Essayez d'aller au
conseil. Non, mais non, mais moi... Alors,
ah, l'économie, si, vraiment.
C'est... T'imagines, tous les jours, un mec qui vient de donner une heure d'économie.
Ça fait pas rêver. Nagui, toi, vas-y. Tu vas nous faire rêver.
Un prof?
Ouais.
J'irai sur un truc de... que j'ai Hello jamais fait. Non, yoga, j'ai jamais fait. Il paraît que c'est génial.
Nagui, je sais ce que t'aimerais. Quoi? Un prof d'italien.
Ah oui, c'est vrai, italien. T'as raison.
Ouais, ouais.
Oh, je te connais mieux que toi.
Mais ça fait plus rêver
que je l'avais dit.
Mais oui.
Non, mais parce que je pense que c'est trop la classe de parler
mais c'est
italien.
C'est génial, l'italien.
Ouais. Trop la classe. Il n'y a qu'un pays où tu peux le faire. Parce que... Non, mais c'est vrai. Oui. Espagnol, français, anglais, tu peux
c'est
voyager dans plein de pays.
Oui, mais ce n'est pas l'utilité qui.
Il y a qu'en Italie. Il y a qu'en Italie. Mais
la harpe.
La harpe.
La harpe, j'avoue qu'on est dans un niveau de bourgeoisie.
Vraiment plus en plus intéressante cette émission.
Et elle n'est pas finie.
Oui.
Et pas fini.
J'apprendrai de Jean-Paul Rouve, bien sûr.
Oh, ça n'existe pas.
Non. Ben, moi, je pense que ça serait de la sociologie.
Ok. Mal. Bien, ouais. C'est prise de tête.
T'es sûr que pas
non, c'est pour comprendre le monde dans lequel tu vis, les gens qui t'entourent. Ouais. Ouais,
tu veux faire la sociologie.
Tu peux lire.
Mais tu
t'as
peux
besoin, ouais, de quelqu'un qui
tu peux tout lire hein, sinon. Oui, oui.
En fait, je crois que la question de départ était pénible. Hein. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir des belles réponses.
Elle est pas mal.
C'était super.
Ça fonctionne dans mon jeu.
La danse classique, toutes sortes.
Moi, j'aimerais bien apprendre le rock. Je ne sais pas danser le rock.
Ça sert à rien.
Et Old Olaf, t'aimerais savoir faire quoi?
Moi, je voudrais
la guitare un peu.
Non. Je vais être obligé de te crever les yeux après l'émission. Mais avant, je vais répondre la cuisine. Je voudrais quelqu'un qui me fasse progresser en cuisine.
Ah oui,
bah voilà. Non,
et Jean-Paul, si vous aviez un professeur particulier...
Sans hésiter, la philo.
Ah. Ah ouais.
Parce que je regrette quand j'étais... moi, j'ai fait un bac de maths plutôt scientifique. Et donc, la philo, c'est un coef très bas.
Ouais.
Donc, tu fais le con en philo, t'es idiot, en fait, à l'époque. Tu vois, ça
il y avait même que en terminale qu'on avait philo.
Ouais, c'est ça. Et je me rends compte à quel point, aujourd'hui, ça me manque. J'écoute des émissions sur la philosophie et
des
tout.
Des podcasts, c'est ça qui vous
intéresse. Ouais, beaucoup, beaucoup. Et ça me manque beaucoup. Et ça, j'aimerais beaucoup.
Et qui vous nourrissent dans votre métier? C'est-à-dire de ça vous nourrit dans votre métier d'écouter justement podcasts sur la philosophie.
Même ça me nourrit moi humainement. Ouais. Moi qui suis pas, enfin peut-être c'est aucun rapport, mais pour moi c'en a un. Moi qui suis pas croyant, ça me fait avancer ce que peut avoir quelqu'un qui croit. Je pense, moi je le retrouve dans la philo. Mmh.
Mais c'est vrai que c'est un rapport direct. Hein. Moi, je suis.
Bah, enfin, je pense.
En étant,
moi,
en étant chez les curés, voilà. Je suis devenu agnostique en terminale. Quand j'ai eu des cours de philo, je me suis dit, OK, bon. Bah,
voilà. On laisse, je suis complètement d'accord.
On, laisse, on va laisser tomber le grand barbu là-haut et on va passer à autre chose.
Faisons tous de la philo, alors. Voilà,
très bien.
Et de la harpe.
Oui, Tom, on va le faire.
Et du chant aussi.
On va évoquer le bourgeois gentilhomme, évidemment, qui est au théâtre Antoine et ensuite en tournée partout en France avec Jean-Paul Rouve, qui est notre invité. Mais d'abord, voici Hold de Laf, fan de Jean-Paul Rouve. Hold de Laf.
Je suis fan de Jean-Paul Rouve. Il est si chébrant, il est vraiment dans le move. Son nom est l'anagramme de Jean Rolpouve. C'est dingue, je le savais pas, je le découvre. Et vous êtes ici pour le bourgeois gentilhomme. Un chef-d'œuvre de Molière toujours actuel en somme. Il paraît que Molière dans la vie était super. En tout cas, c'est ce que m'avait dit Michel Drucker. Je suis fan de vous, j'étais tellement content. Quand Nagui m'a dit que vous veniez, j'ai repris ma démission. Je sais que tous les deux, vous vous êtes connus au Sunlight. Vous êtes férus de funk, vous dansez toute la night. Oh! On voyage chez le futur. Yeah, oh, let's roof tonight. Oh, Nagui en fut en sky. Oh, Leila une vodka pie. Oh, oh, we're gonna roof tonight. Ah ouais, ça va monter. Oh, Jean-Paul Rouve, la piste s'ouvre, on s'éclate. Oh, on s'éclate, je dis. Jean-Paul Rouve, on pousse les roues, on s'éclate. Toute la night, let's roof tonight. Oh, les danseurs nous épatent. Oui, Nagui danse, yes. Un sourire ultra bright. Yes, oh, we gonna roof tonight. Attention, ça va déborder un peu. Attends. Oh, je suis fan de vous et de cette pièce extra. Je sais pas si c'est gentilhomme, mais elle me bourre de joie. Vous êtes notre invité, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec... Oh, mais qui ça donc ? La bande originale.
Avec Let's Roof Tonight.
J'adore. Incroyable.
Ah là là, il a dansé en
plus. Il danse comme un poulet.
Ouais. Un petit nounours.
Bah, il a fait Earth, Wind & Fire à lui seul, c'est ça qui est fort. Quoi.
Et le 1er avril, il sera sur la scène des Folies Bergères à Paris.
Et sur la scène du Théâtre Antoine, bravo. Donc, le bourgeois gentilhomme, Jean-Paul Rouve. Est-ce que vous avez demandé à Jérémy Lipan, qui est, j'allais dire, votre metteur en scène attitré, qui est devenu, j'imagine, un ami, un partenaire, de trouver le classique que vous pourriez jouer, ou vous vouliez depuis longtemps incarner ce bourgeois gentilhomme ?
C'est ni l'un ni l'autre, en fait, puisque ça s'est fait rapidement. Au printemps dernier, Jérémy m'appelle en disant « Tiens, t'as pas envie de faire du théâtre à la rentrée ?» J'avais du temps, je dis ah oui, pourquoi pas. Il m'a envoyé des pièces plutôt contemporaines, et on s'est envoyé des pièces, et moi je relisais des classiques. Et j'ai relu Le Bourgeois Gentilhomme, que j'avais pas lu depuis, je pense, le collège. Je n'avais pas travaillé au cours Florent, tout ça. Et je me suis rendu compte à quel point ça me faisait rire, à quel point il y avait des choses absurdes, il y avait tout ce qui me plaisait, que je pouvais même je trouvais des vannes qui faisaient penser presque au Robin des Bois, tellement c'était absurde.
Mais moi, j'ai pensé aux Tuches. Voilà. Franchement, bah oui, parce que le côté riche et n'ayant pas les codes, et puis voulant acheter une forme d'intelligence ou en tout cas de place sociale,
c'est un peu...
avec l'argent, parce que c'est il est utilisé et tout le monde en profite finalement. Utilisé.
En fait, la différence, c'est que
le rapport à l'argent est très présent.
Voilà, tout à fait, le rapport à l'argent. Lui, ce qu'il veut, c'est changer de classe sociale, à accéder à un monde qui n'est pas le sien. Ouais. Alors que Jeff Tuche, lui, c'est un peu le contraire. Il vient avec son monde dans le monde des autres.
Oui,
il a pas envie de changer, il vient de son monde. Mais bon, ça peut être complémentaire.
Enfin,
Mais il est en décalage quand même.
Ouais, c'est voilà. Ça, en décalage, en tout cas.
Il essaye d'apprendre les codes quand même en Angleterre. C'était ça.
Il est fier de qui il est. Jeff Tuche, il est fier de qui il est.
Exactement.
Et de ce qu'il représente.
Exactement.
Alors que le bourgeois, lui,
il a un peu honte.
Il sait qu'il lui manque de trois trucs.
Bah oui, il pense que. Enfin, il pense qu'il y a un monde qui est mieux que le sien, un milieu social auquel il veut accéder. et qui est assez courant, dans, même aujourd'hui, on est beaucoup à avoir ça,
est-ce que
ce complexe de classe.
Est-ce que dans le bourgeois gentilhomme, on peut y voir aussi ceux qui sont, entre guillemets, qualifiés de nouveaux riches et qui se retrouvent avec un milieu social qui n'est pas celui dans lequel ils ont baigné et perdu.
Mais ce que vous disiez tout à l'heure, là, sur tiens, si vous pouviez prendre des cours.
Ouais.
Moi, je connais quelqu'un qui était ouvrier, qui est devenu un grand chef d'entreprise, tout, donc qui n'a pas été beaucoup à l'école, et qui, au moment où il a commencé à avoir un peu de l'argent, à avoir une réussite, a pris des cours. A pris des cours d'art, par exemple, de peinture, pour apprendre la littérature.
Et rattraper le temps perdu.
Oui, je trouve ça beau, ce chemin-là est magnifique.
Comme pendant un moment, prenez des cours de maintien, comment se tenir en société.
Exactement.
Les cours du soir, tout simplement.
Oui, il y avait ça.
Mais c'est vrai que c'est un budget. C'est vrai que ça.
Ah oui, bien
ça
sûr.
Coûte, ouais. Ça coûte. Ce bourgeois gentilhomme, il fallait, entre guillemets. Alors, vous n'êtes pas seul sur scène, vous êtes même.
On est 14.
Mais c'est ouf.
Ouais, c'est bien. C'est, mais ça, c'est merci Jean-Marc Dumonté, le producteur. Parce que prendre le risque de monter une pièce dans le privé avec 14 comédiens, ça veut dire que c'est un coup de plateau, comme on dit, très important.
Généralement,
au théâtre, on dépasse 4. On te dit,
vous êtes 14. Il y a aussi un nom, c'est le vôtre, Jean-Paul Rouget.
Oh, ça suffit pas, je peux vous dire, cher ami, c'est gentil, mais non, bien sûr que non.
Il y a un peu Molière aussi, si je peux me permettre, sur la fin.
Non, alors, c'est fou de Molière, c'est Jean-Paul Rouget.
Bah, si, parce que je pense que.
Oui, si, bien sûr.
Hier, dans la salle, j'ai trouvé que le public était jeune.
On a de tout.
En moyenne.
Ouais, c'est vrai.
Et je pense qu'il y avait, ça aurait été intéressant de le savoir, beaucoup de personnes qui étaient là pour la première fois au théâtre.
Alors ça me touche, parce qu'il y a beaucoup de gens, en effet, qui viennent parce qu'ils m'aiment bien, des Tuches, par exemple.
Bien sûr.
Et ils viennent voir la pièce et je le vois après, ils sortent et ils me disent ça, ils disent ah, c'est la première fois qu'on vient au théâtre. On se dit quelquefois c'est pas pour nous le théâtre, et là on s'est bien amusé, ça nous a
plu. Ça met une pression quand on entend des gens dire c'est la première fois, on se dit après
met pas une pression, ça met un peu une responsabilité.
Oui, une responsabilité.
Oui, un petit peu, oui. Mais c'est touchant, c'est tellement touchant.
Oui, c'est ça, c'est pas vraiment une responsabilité, ils sont venus vous voir, en plus ils sortent, ils sont heureux.
Mais tu dis je vais pas me louper si c'est la première
fois. Que ce soit des habitués ou des premières fois, t'as pas envie de te louper.
Je connais plein de salauds qui s'en foutent hein, et on les reçoit ici.
Et puis surtout, vous êtes associé pour eux à leur premier souvenir de théâtre. Je veux dire,
c'est
quand même
super.
C'est
génial.
C'est super. Et quand ils me disent, on a aimé, on a ri, on a tout compris l'histoire, parce que ça reste quand même une langue qui n'est pas la nôtre.
Ce
n'est plus la nôtre.
Et pourtant, c'est assez fluide, rapide et ça a été modernisé dans la mise en scène. On va l'évoquer. À vos côtés, il y a Jean-Louis Barcelona, Julien Beauclé, Taylor Château, Michael Cohen, Hugues de la Marlière, Eleonora Galasso, Audrey Langle, Joséphine Meunier, Florent Auperto, Marie Parisot, Marie Parouti et Héloïse Vélard. Et j'ai gardé pour la bonne bouche, parce que big up à lui, Gauthier Batonne qui a repris, entre guillemets, trois rôles en quelques secondes et qui a essuyé les plâtres hier et qui s'en est bien tiré.
En dix jours, il a repris trois rôles, ce qui est hallucinant. Il a appris le texte et tout. Enfin, il est hallucinant.
Qu'est-ce qu'il a apporté quel est le regard de Jérémy Lipman dans cette mise en scène modernisée avec des chorégraphies, avec des musiques?
Oui, c'est ça. Ça, c'est son monde. C'est ce qu'il voulait apporter. Mais nous, quand on a décidé de faire cette pièce, on voulait que ce soit un divertissement, soit un vrai divertissement.
Ça fonctionne.
Que ce soit plaisant et que ce soit parlé. Que le travail d'acteur, on travaille beaucoup pour qu'on soit parlé, que ce soit compréhensible, parce que c'est une langue qui quelquefois peut être déroutante.
Non, on peut être daté, mais en l'occurrence c'est fluide de la manière.
Oui,
dont
mais parce que c'est beaucoup de travail pour parler le texte.
Parce que vous ne déclamez pas, c'est ça qui est.
Moi, je sais pas. On essaye que ce soit le plus parlé possible et qu'on ait l'impression. Alors, ce qu'on nous dit, ce que vous m'avez dit d'ailleurs à la fin, en disant quelquefois peut-être mais là vous avez modernisé, vous avez peut-être changé le texte.
Non, je me souvenais pas de la fin. J'ai halluciné. Ouais. Je dis mais est-ce que ça finit comme ça?
Comme ça.
Dit oui, c'est la dernière.
C'est la dernière réplique. Et même quelquefois, il y a des mots qui sont très modernes, des phrases très modernes. Et on a respecté le texte, c'est le plus important.
Y compris quand c'est en italien.
Oui, tout à fait. C'est traduit, parce qu'à un moment, on parle en italien. Donc, c'est Molière traduit en italien. Quoi.
Et les chorégraphies, par contre, ça, c'est la nouveauté de mettre. Puisqu'il veut être dans le monde.
Non, il y avait de la danse.
Il y avait déjà un ballet. C'était une comédie ballet à l'époque.
Mais pas comme ça, là.
Non, bien sûr.
Là, on est dans Moulin Rouge de Baz Luhrmann par moment. Hein.
Ouais,
ça,
c'est ça,
pas,
exactement. Hein. Ouais, c'était une comédie ballet. Ça durait à peu près. Le spectacle durait à l'époque de Molière. Ça durait 3 heures, 3 heures et demie. Il y avait autant de ballet que de théâtre, donc c'était vraiment une association Lully-Molière.
exemples de musique créée. D'ailleurs, il y a des intermèdes de danse.
Alors ça, c'est Lully, ça.
Ouais. Ah, je me souviens pas de ce moment. Dans la pièce ?
Oui, c'est dans la pièce.
Ouais, c'est dans la pièce. C'est un thème.
Ah, jardin. Ok.
Ok. Avec les enfants.
Et là.
Ça, c'est le dîner.
Les lumières. Non, mais c'est juste.
Ah oui,
c'est
grave.
Ça, c'est le dîner.
Ouais. En tout cas, ils passent sous la table. Il y a des chorégraphies.
C'est
l'orgie.
Un peu énergie, ouais.
Et plus que des danseurs, des gymnastes, j'ai presque l'impression, parce qu'ils font des
chanteurs. Pirouettes. Ils sont tout, quoi. Ils sont incroyables.
Impressionnant. Ouais. C'est au théâtre Antoine, joué par Jean-Paul Rouve et 13 autres actrices et acteurs. On en parle jusqu'à midi et demi, mais d'abord, voici Lisa Delmoitier.
Oh, bravo.
Vous n'auriez pas repris ce Molière comme ça, vous ?
Non. Molière. Putain, les Français, quand vous trouvez un bon auteur, vous savez traire la vache jusqu'à la dernière goutte de latte. Hein. Il est vide, le puits, là. Hein. C'est plus une œuvre, c'est des nichons. Après trois grossesses, c'est une ménopause.
Oh,
après, je dois bien l'avouer, hein, le bourgeois gentilhomme est encore d'actualité. Dire, la lutte des classes est toujours au cœur de notre société, tout comme la volonté individuelle d'ascension sociale, que ce soit par l'argent, par le travail, par la célébrité. Moi aussi, j'avoue, ben, je me suis un jour dit... J'aimerais bien être riche et connue. Et puis après, je me suis dit, non, je vais travailler sur France Inter. On ne peut pas tout avoir. Dans le thème est contemporain, l'outrance aussi. Hein. Vous avez déjà vu des milliardaires, les nouveaux nobles, ensemble ? Ils ont toujours l'air tellement contents d'être entre eux dans l'opulence. Récemment, il y a eu un selfie viral avec Cristiano Ronaldo. Vous savez, c'est le mec qui a appris à dribbler à 20% par passion du foot, à 80% pour se refaire les dents. Donc Ronaldo, qui joue en Arabie Saoudite, slash le pays qui tue des journalistes quand même, à côté de Elon Musk, trou du cul intersidéral, et David Sachs, conseiller de Donald Trump en crypto-monnaie, je crois, mais peu importe, Trump a un conseiller pour tout, de toute façon, je crois qu'il a un conseiller pour mettre ses chaussettes. Donc, left sock on the left foot, that's huge. C'est étrange, les bourgeois, parce qu'il y en a toujours eu, mais personne ne se définit comme tel. C'est toujours l'autre, le bourgeois, mais c'est jamais toi. Bourgeois, c'est comme raciste ou chauve. Eh non, je suis pas chauve, t'as vu Etchebest ? Oh, Daniel. Après, l'argent, c'est objectivable. Donc, il y a un moment, tu peux pas nier ton appartenance à une certaine classe, ou la noblesse, la bourgeoisie. Mais le plus pernicieux, je trouve, c'est la bourgeoisie intellectuelle. Parce que pas quantifiable, mais ô combien influente. Vous savez, tous ces donneurs de leçons dans les médias, les pseudo-philosophes, les humoristes qui critiquent Ronaldo, alors que tu dirais non, Lisa, à l'Arabie Saoudite pour 200 millions de dollars ? Prise, dès le moitié. T'as déjà couché avec un homophobe juste pour qu'il paye un McDo. Donc.
Oh non.
Si, c'est vrai. Mais rien que sur cette antenne, il n'y a peut-être pas beaucoup de bourgeois financiers, mais il y a une bourgeoisie intellectuelle. Bien et il faut reconnaître que tous ne sont pas issus de la méritocratie.
Oui.
Moi pas en tout cas. J'ai un master, mais je n'ai pas de mérite. Mes parents m'ont payé mes études et j'ai une mémoire à court terme à la Rain Man. Je peux vous dire comme ça combien de personnes dans la pièce. 7.
Wow.
Ça faisait une heure que je comptais. Et de la même manière qu'on voit dans la pièce le ridicule de la noblesse, le ridicule de ce que la bourgeoisie peut faire juste pour s'élever, il y a le ridicule aussi dans la bourgeoisie intellectuelle qu'on observe, moi je trouve que j'observe actuellement. Moi qui ai fait 5 ans d'études, j'en ai croisé des gens intelligents. Et je peux vous dire que dans le tas, il y en a un paquet, ils sont vachement cons. Oh, le nombre d'intelligents cons, c'est si décevant, c'est comme quoi un beau gosse pue de la gueule. Oh non, quand... Je ne peux pas avoir des abdos et un côlon irritable. C'est pas possible. Et je vous dis ça, vraiment, je m'inclus dedans. Pour le temps que j'ai passé sur les bancs de l'école, qu'est-ce que je peux être con ? Pour parler de la pièce et d'ascension sociale, j'ai relu Karl Marx, qui a dit « L'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte des classes ». Et jusqu'à ce matin, Karl Marx, je croyais que c'était un meuble Ikea. Mais ça, c'est Kallax. Une étagère avec plein de compartiments, donc notre société, finalement.
Oui.
Mais ce qui est marrant c'est aussi dans la pièce, c'est que ça se voit toujours quand t'es pas né dans une classe. Hein. Moi, la seule fois où je suis allée dans un resto gastronomique, il y avait un crochet sous la table.
Ah oui.
Pour y suspendre ton sac pour pas qu'il touche le sol.
Oui. Ouais.
Et moi, je savais pas. Oui. Je me suis dit, waouh, ils ont même prévu de quoi se pendre pour quand tu reçois l'addition.
C'est fou.
Mais t'imagines avoir un sac d'une telle valeur que t'as peur qu'il touche le sol. Mais moi, mon sac, dans quoi il a traîné, mon sac, il est par terre au resto, mon sac, il est par terre dans le métro. L'autre jour, j'ai voulu donner une pièce à un sans-abri, il m'a vu fouiller dans mon sac, il m'a dit, non merci. Si ça, c'est pas une attitude de bourgeois.
Le bourgeois, gentilhomme, le ridicule des prétentions, les classes sociales et beaucoup de quiproquos et de mariages arrangés.
Exactement. Aussi. Tout ce qui fait Molière, c'est... la comédie humaine.
Oui, voilà. Mais alors,
et la bourgeoisie désargentée qui est aussi une arnaqueuse, quoi.
Enfin, exactement. Mais c'est ça. Il y a pas de bon et de méchant à chaque fois avec lui. Et à chaque fois, les
bah, y en a qui sortent pas trop grandis.
Personne sort grandi parce que finalement.
Le personnage de Michael Cohen, il est pas, c'est pas non plus une.
Non, mais il est référence. Quand même, il est sincèrement amoureux de
la marquise.
De Dorimène, de la marquise. Et il se fait un peu mener par le bout du nez par cette femme. Et moi, mon personnage, il est. Alors, il est touchant, bien sûr, mais il a aussi des côtés un peu médiocre aussi.
Oui, mais il veut tromper sa femme à tout prix.
À tout prix, il veut changer cette idée de vouloir absolument avoir un beau fils. Oui. C'est comme t'as une fille et tu dis ah bah il faut que ton mari soit médecin ou avocat. Oui. C'est la même bêtise.
Ouais. Ça existe encore aujourd'hui.
Ça, et ça existe encore aujourd'hui. C'est pour ça que ça vieillit pas. C'est pour ça qu'on s'y retrouve toujours et qu'on pense toujours, comme tu disais, qu'on pense toujours que c'est l'autre, en fait.
Je précise que beaucoup d'acteurs, c'est pas votre cas vous dans la pièce, parce que vous êtes très présent dans toutes les scènes, mais beaucoup d'acteurs ont deux rôles, voire trois.
Ah bah oui, parce que sinon les distributions, elles montent à 17-18.
Michael Cohen jouant et Dorante et
le maître à danser.
Voilà. Jean-Louis Barcelona jouant et le maître de philosophie et
le moufti.
Le moufti.
Avec une chorégraphie du bidou absolument impressionnante à la fin. Beaucoup d'autodérision. Audrey Langle joue la servante Nicole, oui. Complice de Lucille,
exactement.
Qui est votre fille, qui joue par Marie Parisot. Et puis il y a aussi Cléonte, le maître de musique et le maître tailleur, le rôle étant repris par Gauthier Batou.
Exactement.
C'est très 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 impressionnant. Beaucoup de travail de répétition,
énormément.
De déplacement. Parce que là aussi,
de déplacement,
c'est-à-dire se retrouver sur scène à 14. Le seul moment où je vous ai vu embêté avec la taille de la scène au théâtre et le nombre d'acteurs et d'actrices, c'est pour venir faire les rappels et les saluts plusieurs fois.
Ah oui.
Là, vous essayez d'être synchro, vous êtes tous super serrés
sur le plateau. Ouais, c'est sympa. Non, ça va, ça, le déplacement, tout ça, la mise en scène, ça va. Non, c'est le travail du texte, c'est le travail.
C'est dur à prendre, Molière, parce que vous, c'est
super dur.
À part votre seul en scène, vous n'étiez pas remonté depuis Musset.
Oh là là, depuis bien longtemps, oui. Oui, c'est très dur, parce que, alors, Molière, il y a des pièces en vers, il y a des pièces en prose. Les pièces en vers, paradoxalement, sont plus faciles à apprendre parce qu'il y a une musique.
Il n'y a que la prose et le vers.
Ou de la prose.
Ouais, c'est ça. Il n'y a que la prose et vers. Quoi.
Réplique dans le bourgeois.
Et la prose, elle est très compliquée à apprendre parce que ça paraît un quotidien, mais c'est plus notre quotidien. Donc les mots, des fois, sont pas mis dans le bon ordre. Quelquefois, des phrases veulent dire le contraire de ce que ça veut dire aujourd'hui. Où allez-vous, par exemple ? À l'époque, ça veut dire d'où venez-vous ? Enfin, voilà, ouais. Donc il faut le jouer pour que le public comprenne que ça veut dire le contraire de ce qu'on dit aujourd'hui.
Et surtout ne pas le modifier, ce texte.
Ah non, bah non, c'est trop facile sinon. Bah non, il faut s'amuser, c'est la contrainte qui fait le plaisir aussi, dans ce cas-là.
Okay,
ouais, non, mais c'est vrai.
C'est chaud de modifier Molière.
Et puis Molière, faut
non,
pas.
Mais non, mais justement, s'il y a un contresens ou s'il y a un mot qui a évolué à travers les siècles, de se dire, on va le remettre aujourd'hui pour que le public comprenne.
Ouais, c'est téléporté dans une époque.
Autant le jouer.
On le joue, on le joue. Mais moi, c'est le... Moi, j'avais été en admiration quand j'avais vu Jean-Pierre Bacri, quand il avait joué Les Femmes Savantes, mis en scène par Catherine Yeagel. C'était en vers, Les Femmes Savantes. Et il était dingue, de naturel. Et après, on en avait parlé longuement. Je dis, mais comment t'as fait, quoi ? Comment t'as fait ? Je veux savoir comment tu fais. Comment tu travailles ?
Ça fait peur.
Tellement c'est dément, tellement c'est fou. Et donc moi, je me suis attelé à ça. Je ne suis pas du niveau de Jean-Pierre, mais en tout cas, j'ai fait ce travail-là.
Mais c'est réussi, et puis surtout, c'est extrêmement fluide et très moderne, encore une fois, par les sujets abordés. Ça, c'est le talent de Molière, plus...
Comme quoi, la langue n'altère rien.
Ouais, ça reste, tu as raison. Le sujet reste présent, l'ironie, la dérision reste présente.
Non, ce qui est fou, nous, à chaque fois...
On va enlever vos mains de la bouche, s'il vous plaît.
C'est un concept.
Quel acteur ?
Ce qui est dingue tous
reviens,
les soirs,
Jean-Paul, reviens.
C'est que nous, on fait des films, des comédies, puis des fois on les revoit au bout de 5-6 ans et des fois et tu te dis ouais, c'est plus tellement marrant en fait, ça vieillit, tout vieillit, c'est normal. Ouais. Et lui, au bout de 400 ans, quoi, ça continue à être drôle. C'est incroyable ce mec, ce qu'il a réussi à faire.
Oui, mais là vous êtes libre de garder justement le tempo, d'aller plus vite, d'être
bien sûr, c'est ça, c'est
de faire entrer une pièce de 3 heures en 2 heures, quoi. Enfin, c'est
complètement.
Ça va vite.
À 1h45.
Ouais, ça va vite. C'est au théâtre, Antoine, je le rappelle, je le précise. Porté par Jean-Paul Rouve. On en parle jusqu'à 12h30. On va évoquer donc la musique, pas uniquement celle de cette pièce de théâtre. Faut que je retrouve le musicien qui voulait composer cette musique. Je l'avais tout à l'heure.
David Parianti.
Merci.
Il travaille beaucoup avec Jérémy. Il fait beaucoup de spectacles de Jérémy. C'est un très bon compositeur que je ne connaissais pas, j'ai découvert. Et ça, c'est Lully, un mec qui a fait des trucs pas mal aussi.
Vite fait.
Il fallait, vous savez comment il est mort, Lully?
Non, mais en tout cas, il fallait le garder avec Molière.
Ah, bah oui, bien sûr, bien sûr. Parce que c'est une comédie ballet.
Alors, comment il est mort?
Il est mort, c'est très allongé dans Lully. Il était, il était en train de.
Attends, pardon.
Oui, pardon, j'ai dit allongé dans Lully. J'ai tenté quelque chose d'un peu de
temps. Et en fait, il.
Oh le vilain.
Pardon, excuse-moi, je t'en prie. Donc, il avait un bâton pour battre la mesure, comme on voit. Et un jour, il a enfoncé son bâton dans le pied. Et ça a fait une gangrène, il est mort de ça.
Mais non.
C'est fou comme mort.
Tué par un brigadier.
Exactement. Parce qu'à l'époque, tu soignais pas et il est mort comme ça.
Pour frapper des trois coups. Éric Mention-Rigaud, qui est écrivain, biographe, professeur d'histoire à la Sorbonne, viendra nous conter justement l'histoire de la bourgeoisie et des luttes sociales, des classes sociales dans quelques instants. Mais d'abord, voici Tom Baldetti.
Oh. Bravo. Oui, ça. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien.
Et toi?
Ouais, moi c'est censé aller, je vois une psy depuis peu.
Ah bien.
Je sais que c'était le sujet d'hier, j'aurais dû venir hier. Mais
oui.
Aujourd'hui, c'est le début avec ma psy. Hein. La première fois, c'était il y a quasi 400 balles. 4 séances, pardon. C'est 90 balles la séance, quoi.
Oh, c'est cher.
90 balles, je veux au moins une entrée, un dessert. Je comprends pas. J'ai arrêté la clope pour pouvoir me payer des séances de psy, mais du coup, on parle que du fait que la clope me manque. C'est déstabilisant de voir un ou une psy au début. Moi, je suis timide encore, j'ose pas trop lui parler. Pour l'instant, c'est elle qui me parle et c'est elle qui se fait 90 balles. J'ai l'étrange sensation de me faire couiller, mais je sais pas encore où, quoi.
Couiller?
Ouais, une expression que j'aime bien. Ouais. Non, mais c'est elle qui vide son sac et qui remplit son portefeuille, quoi. Oh. C'est moi qui lui fais du bien, en fait. Les rôles s'inversent. Je suis à deux doigts de la rediriger vers un confrère. À la fin de chaque séance, elle me dit « On se voit la semaine prochaine, je sens que votre thérapie sera efficace que si on se voit régulièrement. » Je pense qu'il faut aller voir des psychologues, quoi. Il faut aller voir des hologues, de manière générale.
Ouais.
Souvent, les métiers qui finissent en hologue, c'est des gens qui vous veulent du bien, quoi. Enfin, c'est des gens experts dans un sujet assez précis. Les psychologues, ils s'y connaissent en psychologie, les archéologues en archéologie, les proctologues, ils ont un problème beaucoup plus profond. Je pense que les proctologues, ils devraient aller voir des psychologues. Je pense que c'est important d'aller voir un psy, quoi. Chacun y va pour ses raisons et ça le regarde. Il y en a qui vont pour un chagrin d'amour, par exemple. Moi. Il y en a qui vont pour soigner l'anxiété. Moi. Il y en a qui vont pour briller en société et pouvoir dire dans une phrase « Ouais, je vais en parler à mon psy. » Moi. Moi, en vrai, j'y vais par anticipation pour appréhender le moins de soucis psychologiques. Il y a plus de pathologies mentales dans ma famille que dans n'importe quel hôpital psychiatrique, quoi. Il y a tellement de bipolaires, il y a des membres de ma famille à qui je dis « Vous ». Moi, j'ai déjà fait des Noëls en HP. Le pilulier, c'est un peu le calendrier de l'Avent, quoi. Qu'est-ce que ça peut être aujourd'hui? Mais non, du lithium et des antidépresseurs. Le gros barbu habillé en rouge, il est psychiatre ou quoi? J'essaie de prendre soin de ma santé mentale aussi pour honorer la période dans laquelle je grandis, quoi. Qui m'autorise à en parler, qui met enfin des diagnostics et des mots sur des vraies pathologies. Je prends soin de ma santé mentale par respect de mes ancêtres et de tous ceux avant ma génération qui étaient malades mais qu'on considérait fous. C'est ça qui est le plus dur avec la maladie mentale. Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'une maladie qui ne se voit pas. C'est dur d'avoir de la compassion avec quelqu'un qui n'a pas l'air de souffrir. Ah aussi, il y a des gens qui vont voir des psys pour pouvoir avoir quelque chose à dire en chronique. Moi. Bon, je vous laisse. Il faut que j'aille trouver un taf alimentaire pour pouvoir payer ma prochaine séance de psy.
Il a raison, hein, tous les mots qui sont hologues, j'étais en train de penser à ça, sont...
Des spécialistes.
Oui,
j'ai tout vu.
Rassurant.
Non, mais dermatologue, tout ça, tu dis, c'est rassurant. Un titre que j'adore dans la bande originale, Olivia Dean. J'adore Baby Steps, et on se retrouve juste après.
Plug me straight back in. Now there's no one to text when the plane lands, or to call when it's taking off. Right there, baby steps. I'll be my own pair of safe hands. It's not the end, it's the making of. Right there, for now I'm taking but baby steps. Baby steps,
gonna come on. Yeah, this house gon' love itself. I'm taking bubba, baby steps. Bubba, baby steps. Bubba, baby steps. Bubba, baby
C'est l'excellente Olivia Dean. Notez bien ce nom, vous allez en entendre parler, c'est énorme. Ça s'appelle Baby Steps, c'était dans la bande originale de Jean-Paul Rouve.
Alors, je pense que ce soir, je vais mettre une tôle, mais mythologique. Mythologique. Leïla en parlera dans quelques années.
Théâtre, je le précise, au théâtre Antoine. J'ai anticipé un tout petit peu en disant ensuite en tournée, c'est déjà prévu. Vous
oui,
savez
oui,
déjà
tout à fait.
Que vous allez partir en tournée.
Oui, oui, c'est ça y est, ça se met en place là et on part en tournée. Logiquement là, de septembre, enfin oui, c'est sûr même, de septembre à décembre, septembre-décembre, on s'arrête un peu pour les fêtes de Noël et on reprendra sûrement un peu en janvier. Donc ça va être c'est une grosse tournée, 80 dates, je crois, il y a en tournée, ah oui. Ce qui est beaucoup, ouais. Ouais.
À 21h donc du mardi au samedi.
Et le samedi on joue deux fois, on joue à 16h-21h.
Alors c'est ça que je voulais dire.
Ouais, c'est
crevant.
Ah ouais, ouais. Moi je dors j'arrive à faire une sieste entre les deux parce que c'est épuisant sinon. C'est épuisant.
La comédie de Molière mise en scène par Jérémy Lippmann, jouée par Jean-Paul Rouve. On reçoit donc Éric Mention-Rigaud dans quelques instants, mais d'abord la musique dans votre vie. On va commencer avec les Beatles en 98. Helena Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Avec la voix d'un côté sur la voix droite,
c'est ça. Ouais. Si vous avez le
stéréo,
si vous pouvez faire droite gauche, vous pouvez entendre que la voix de McCartney. C'est sublime d'entendre que sa voix.
Leïla, à ce moment-là en 98, on est
Serial Lover.
Oh, premier film.
Et ouais, James Hutt.
James Hutt, qui était notre pote du cours Florent, qui était dentiste. James. C'était notre dentiste, il était au cours Florent.
Et fils de dentiste en plus.
Et fils de dentiste, et il décide de faire son premier film. Et voilà, et on se retrouve à tous les Robins. D'ailleurs, on est tous dans tous les Robins des Bois. On jouait à l'époque à la Gaîté Montparnasse. Et la journée, on allait tourner au studio, je sais plus, super loin de Paris. C'était un enfer. Et puis le soir, on jouait au théâtre. C'était un bon souvenir.
En 2003-2004, Jean-Paul Roux, vous écoutiez encore les Beatles.
Elle est dingue, ça. Harrison. Album double blanc.
Vous refaites des cures de Beatles par moment.
Ah mais c'est que parce que je suis venu souvent dans cette émission et on me demande à chaque fois.
Je sais ce que vous avez fait pour aujourd'hui, mais
oui,
mais blague à part dans la vie.
Non, c'est vrai. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est sincère. Ouais. C'est pas une blague. C'est que moi, je me dis tiens, c'est quoi les morceaux qui ont. Alors je peux aller retrouver des choses, bien sûr, mais je me rends compte qu'en fait, j'écoute depuis toujours les Beatles. Tout le temps des moments de ma vie. Par exemple, la première chanson, je me souviens la première. Helena Rigby, je me souviens la première fois que je l'ai entendue. Ça fait partie de ma vie.
Là, vous réécoutez While My Guitar Gently Weeps, vous avez quelle image en tête?
Ah, j'ai image. Alors, c'est marrant, j'ai image. Je suis au cours Florent et je suis dans ma chambre. Bah, pas loin d'ici, j'avais une chambre avenue de Versailles. Et je me souviens.
Radio.
Parce que je vous explique pour les Beatles.
Ouais.
Parce que moi, les Beatles, quand ils sont séparés, j'avais 3 ans. Donc, tous les albums étaient déjà sortis. Donc, j'avais pas la chance de pouvoir avoir un album des Beatles qui arrive.
Un neuf.
Personne ici, à part Morin, évidemment, qui était la bande frère, donc il a connu tout ça.
Il a fait partie du groupe, en plus.
Et donc quand j'ai découvert les Beatles, je les ai découverts assez tard, vers 18 ans, avec Sgt Pepper, qui a été un truc sublime pour moi. Et après, je faisais exprès de pas tout acheter. Donc j'ai acheté Sgt Pepper, je l'écoutais à fond. Puis 6 mois après, j'en achetais un autre et je le découvrais.
Créer le manque pour avoir le
plaisir.
Ouais,
c'est ça. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai découvert tous les Beatles. Et que ça reste pour moi la chose la plus importante dans ma vie musicalement.
Et dans ces années-là, 2003-2004, un rôle de postier, un rôle de sosie, un rôle aussi de collabo qui vous vaut...
C'est la même année tout ça ?
2003-2004.
Ah oui, c'est ça. Oui.
Quelque chose près, que ce soit dans donc, Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet ou dans Podium, où vous incarnez un sosie de Paul Naref. Oui. Initialement, vous deviez être un sosie de C. Jérôme, c'est
ça ? Oui, parce que dans le roman, donc c'est un roman à la base, Podium. Oui. Hein. Oui. C'est un sosie de C. Jérôme. Sauf que quand vous voyez, pour ceux qui se souviennent de C. Jérôme,
oui.
C'est un chanteur de variété qui est un peu dans le même look que Claude François.
Un peu rond de visage.
Rond avec des cheveux blonds.
Ouais. Et pardon, pire, il s'appelle C. Jérôme, parce que son véritable prénom, c'est Claude. Et donc, qu'il ne pouvait pas y avoir deux Claude chanteurs blonds à ce moment-là.
Et c'est Yann Moix qui, un matin, entend une chanson Paul Naref à la radio et qui dit voilà, Paul Naref, c'est une bonne idée, c'est un bon look pour un personnage.
Tellement.
C'est une super idée. Et on essaye et ça marche.
Ouais, et Monsieur Naref qui s'appelle Couscous.
Et Couscous dans le film. Ouais,
c'est ouais. Votre point commun avec Jean-Louis de Barcelona d'avoir fait tous les deux Paul Naref.
Oui,
dans les
fait
pubs,
dans
c'était
ouais,
là, mais il était. Ouais.
Et puis ce rôle-là dans Monsieur Batignol qui vous vaut ce César du meilleur espoir masculin.
Oui. J'imagine
quand on commence la scène par justement les Robins, par la troupe, le risque c'est de se dire qu'on sera toujours cantonné à l'humour. Parce que la crainte, ça a été ça ou pas pour vous ?
Pas du tout, on pense pas à ça.
Ouais.
Non, on est heureux de faire des sketchs, d'être à la télé, de s'amuser avec toi notamment. Et puis voilà, et puis on nous appelle pour jouer dans des films, donc on est heureux de tourner. Ouais. Marina, moi.
Danny Boone avait fait la vanne en allant au César en jogging.
Ah oui, ça c'est autre chose.
Les humoristes n'ont pas leur place ici.
Ah non, lui, ce qu'il voulait dire, c'est par rapport aux films comiques, aux comédies, qui n'avaient pas leur place au César. C'est autre chose encore.
Ouais. C'est pas les interprètes.
C'est pas la même chose, oui. Et ce qui est vrai d'ailleurs, c'est très compliqué. Ouais. Mais nous, non, on n'avait pas ça. Alors peut-être c'était une inconscience, mais. Donc quand César arrive, c'est. L'année d'avant, on est là à faire des sketchs avec les Robins sur scène, et cette année-là, tu reçois un César, c'est fou, quoi.
En 2008, Jean-Paul Roux, vous écoutiez les Beatles.
Magical Mystery Tour. Qui a un album sous-estimé.
En tout cas, grâce à vous, ça fait du bien de réentendre comme ça plein de...
Et le clip, si vous regardez le clip, il est tourné dans les hauteurs de Nice. C'est sublime. Ouais.
Et c'est justement un tournage en 2008 pour Jean-Paul Roux.
Premier long métrage, oui. La vie d'Albert Spaggiari qui vous a...
Sorti en 2008, tournage 2007.
Ouais. On reste à Nice.
Sans armes, ni haine, ni violence. Pourquoi vous êtes intéressé à l'itinéraire de cet homme-là, Spaggiari ?
Parce que je trouvais que c'était la première personne qui voulait être comment dire ? Les personnes, en général, quand tu es connu, c'est que tu fais un métier artistique, en général, on va dire. C'est souvent ça. Ben lui, il voulait être une vedette. Quoi qu'il arrive, c'était son but. Et donc, faire un cas, c'était devenir une vedette. Et son obsession, toute sa vie, c'était de... Alors, son... C'est un peu Claude François, on va dire Johnny Hallyday, Michel Sardou. Ils se détestaient. Ils se détestaient, je veux dire, ils étaient en compète. Et lui, ce qu'il voulait, il détestait Mesrine. Parce que Mesrine faisait à l'époque la couverture de Paris Match. Et Spaggiari n'a jamais fait la couverture de Paris Match. Ah. C'était son obsession, faire la couverture de Paris Match.
Mais quel que soit le domaine, il fallait ça.
C'est très actuel avec les jeunes qui veulent juste être influenceurs à Dubaï. Des followers et être connus.
Et en plus, c'est un personnage
comme si
ambigu.
Comme si c'était un métier d'être connu.
Ça m'intéresse, parce que c'est un personnage ambigu, mais éminemment sympathique.
Oui.
C'est un mec qui fricotait avec l'extrême droite, et c'est tout. Et ça, je voulais parler de ça, sympathie...
Comment vous l'avez découvert tout ça ? Parce qu'il faut le savoir.
Ah, parce que je m'intéressais, je sais pas comment j'ai découvert. Il m'intéressait ce personnage, je me dis, tiens, c'est marrant, il se prend en photo, il se déguisait, quand il venait à Paris, donc il était en cavale, quand il venait à Paris, il se déguisait en Mesrine. Mais je vous jure que c'est vrai, il y a des photos de lui où il a le collier de Mesrine. Mais c'est un mec, mais c'est pas un, c'est un mec hyper sympa. Sauf que c'est un mec.
Ce qui aurait été triste, c'est qu'il se fasse abattre.
Oui,
par Moussa.
C'est pas un mec fréquentable.
Ouais, c'est ça.
Donc, et moi, je voulais parler de ça, que la sympathie n'était pas une valeur morale aussi. Ouais, je voulais parler de ça, oui.
C'est très, très drôle, ça. Ça me donne plein d'idées. En 2018. Non, t'as raison. En 2018, les Beatles, évidemment.
Dernier album des Beatles, sur la dernière enregistrée.
J'imagine que vous avez vu la série consacrée.
Ben, c'est pour ça que je passe ça. Parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, si, même si vous n'aimez pas les Beatles, ce n'est pas très grave, vous pouvez voir un moment de création pure. C'est-à-dire, vous avez...
Et de rapport humain.
Et de rapport humain. Mais sur ce morceau, vous avez McCartney qui commence à jouer les premières notes. Et nous, on connaît le morceau aujourd'hui. On dit, ah ça y est, il l'a. Mais lui, il ne l'a pas encore. Et on le voit progresser, et on le voit trouver ce morceau. Et on voit derrière, à un moment, on voit Ringo Starr qui se met à la batterie, qui dit « c'est pas mal ça, tac, tac », et on voit le morceau se créer. Mais nous, on le sait dès la première note. Donc on voit ce processus, et on voit le travail que c'est. Et regardez ça, c'est un moment sublime dans le documentaire.
J'ai l'impression qu'il y a un spécialiste des Beatles qui vient
nous
parler.
Non, mais il a raison, parce qu'il en parle avec passion, et c'est passionnant de l'écouter, et pour avoir vu le doc...
C'est fou, hein.
Ce qui est fou, c'est le point de départ de l'histoire, ils savent que c'est le dernier album, ils cherchent un endroit pour
Ils savent.
En tout cas...
Ils savent pas encore.
Ils évoquent un concert d'adieu, et ils cherchent des idées pour des concerts, avec des interdictions partout dans le monde.
En Égypte, d'ailleurs, sur les pyramides, ils vont sur la pyramide.
Avec des demandes d'autorisation pour finir sur le toit de leur propre maison de disque, arrêté par la police. L'un des concerts, et même leur producteur dit on va avoir les keufs, donc quoi qu'il arrive, on va avoir des problèmes.
Dans le doc,
t'as les voisins qui
gueulent. Il y a les keufs qui arrivent en bas, et il y a le mec qui les retient.
Ouais. Qui ralentit les keufs.
Bon, c'est des keufs, c'est des Anglais, des bobbies, ils sont sympas. Hein.
Ils sont pas armés.
Ouais, ils sont cool.
Et 2018, c'est Liberté, Égalité, Fraternité, Tuche.
Oui.
Les Tuches 3 d'Olivier Barou, vous co-signez le scénario. Ce film dépasse au box-office les 5 millions d'entrées, je crois, quasiment 6. Ouais, 5 600 000.
C'est le 3, celui-là.
C'est le 3. Un César du public, on parlait justement.
Ah bah oui, c'est vrai, à l'époque ils avaient fait ça, oui.
Et oui.
Ah, il y a eu deux années de suite, je crois, le César du public. César du public. Non, mais c'est les entrées, enfin, tu vas donner à César. Ça veut rien dire.
Mais c'était
en fait
une façon d'intégrer, je pense, la comédie.
Bah, à ce moment-là, tu la mets dans les films.
Dans le palmarès.
Tu fais comme les Américains. Tu vois,
une
les
catégorie
Awards,
comédie.
Tu fais catégorie comédie. Ben, il y a ça aux États-Unis, dans les Emmy. Il y a ça. Il y a catégorie comédie, catégorie drame pour les acteurs et pour les films.
Oui.
Voilà, tu fais ça à ce moment-là.
C'est pas une mauvaise idée.
Oui.
Et pourquoi ça se fait pas? Parce que
j'en sais.
Il y a un côté.
Oui.
Non mais c'est très dommage qu'il n'y ait pas les comédies qui soient consacrées.
Parce que c'est drôle.
Oui, sûrement.
Alors c'est quand même beaucoup plus difficile de faire rire que de faire pleurer.
Tu sais pourquoi? Parce que moi je pense, je réfléchis à ça, je me dis mais pourquoi il y a ça? Mais parce que le rire, c'est l'instinct. C'est instinctif de rire. C'est pas intellectuel. Donc je pense qu'il y a ça. Le rire n'est pas considéré comme une démarche intellectuelle, mais comme une démarche instinctive.
On parle
de Molière. Il y a toujours eu le genre plus noble qui était la tragédie, plutôt que la comédie. Donc c'est une dichotomie qui existe depuis tellement longtemps.
Si aujourd'hui tu dis Molière, Shakespeare. Quoi qu'il arrive.
Non, mais les gens connaissent pas Shakespeare.
Mais Shakespeare a fait des comédies aussi.
Oui, mais
moins connu. Ça, il vous plaira.
C'est pas ça qui plaît. Et quand tu dis Molière, tu vas dire ah, le misanthrope. Parce qu'on est dans une comédie, différente.
En 2022.
Hey Jude, don't make it bad.
Chanson écrite
pour le fils.
Ça marchera jamais, ça.
Pour le fils de Lennon.
Lennon, ouais, Julian.
Alors, ce qu'il avait fait la veille, donc McCartney, la veille, il va...
J'adore. C'est la conférence de Jean-Michel sur les... Mais c'est super.
Il va à la boutique, donc ils ont à l'époque Apple Records, et il y a une vitrine, donc, devant. Et lui, il va
Petite précision, il y a un procès, il y a eu un procès entre Apple, Macintosh
bien sûr,
et
pour Apple, ouais.
Absolument, ouais.
Pour le nom Apple.
Ouais.
Et il va écrire avec de la peinture blanche pour la sortie, et Jude, comme ça.
Tagué.
Et donc, la peinture coule, et les mecs pensaient que c'était... que c'était un truc antisémite. Le lendemain, il y a eu un gros problème en disant « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» C'est fou, quoi. Ouais. Et alors que c'était pour la sortie du disque.
Et on est en 2022.
Oui, et on est sur scène. Vous êtes sur scène, Jean-Paul, dans J'ai pas l'air, oui. Au Théâtre Antoine, justement, avec Jérémy Lippmann. On était venu vous voir à cette occasion.
C'est là où on s'est rencontrés.
On en avait parlé ici avec une quinzaine, un peu plus de titres que vous enchaînez sur scène avec des parties.
Je chantais pas, il y avait un ralenti.
Un petit peu à la fin.
Mais c'était fredonné. Ouais. Parce que je chante pas bien. Mais et moi, ce qui me plaisait, moi, j'adore les textes. Hein, j'adore, je trouve que c'est la poésie d'aujourd'hui, c'est les textes de chansons. Et donc, je voulais rendre hommage à tous ces auteurs que j'aime beaucoup.
Et puis, c'est une nouvelle forme en plus, finalement.
Oui, complètement.
Soit on va à un concert, soit on va voir quelqu'un sur scène qui parle, mais quelqu'un qui est sur scène qui fredonne,
ouais,
qui dit les textes.
En fait. Et racontait des histoires
Vous les aviez choisis, donc il y avait une forme d'écriture
aussi.
Bien sûr, une architecture. Oui.
Et vous allez le reprendre, ça
J'aimerais bien, oui.
Quitte à prendre l'idée avec d'autres textes.
Exactement.
Raconter notre histoire.
C'est un concept, j'aimerais bien le refaire, ouais, avec Alain en plus, qui est incroyable au piano.
Super pianiste et compositeur. Au Théâtre Antoine, Jean-Paul Rouve y interprète Le Bourgeois Gentilhomme, justement avec vous, Éric Mansion-Rigaud. Bonjour. Merci de venir à ce micro. Vous êtes écrivain, biographe et professeur d'histoire à la Sorbonne. La définition du bourgeois, de la bourgeoisie...
Historiquement, le bourgeois est le contraire du noble. Le bourgeois doit sa reconnaissance sociale à sa réussite individuelle et non pas à sa naissance. Mmh. Et il ne manifeste pas de réticence à l'égard de l'argent et des activités mercantiles.
Donc on ne naît pas bourgeois, on le devient.
Voilà. La noblesse, elle, repose entièrement sur le principe héréditaire. Et le maniement de l'argent... caractérise la bourgeoisie dès ses débuts. Les Burgenses au Moyen-Âge désignaient ceux qui quittaient les servitudes de la campagne pour se livrer en ville à des activités de commerce, d'artisanat et d'industrie.
Ce sont les premiers bourgeois ?
Ce sont les premiers bourgeois.
Mais ce sont des marchands donc ?
Ils sont dans le commerce, dans l'artisanat et après dans l'industrie. Un bourgeois qui réussit gagne de l'argent, thésaurise, et c'est cette épargne qui fonde sa liberté et son pouvoir de rayonnement.
C'est quoi l'étymologie du bourgeois?
Burgenses, c'est bourg, c'est la ville.
Ah, la bourg, d'accord.
Oui, c'est la ville. La bourgeoisie est urbaine, par opposition à la campagne qu'ils ont quittée.
Justement, par opposition, j'imagine, aux paysans, aux travailleurs de la terre. Est-ce que c'est lié à un métier,
à des activités mercantiles qui ont pour objectif de gagner de l'argent. Donc c'est le commerce, l'artisanat, et après ça va être au 19e siècle l'industrie.
Mais ça peut être les armes, ça peut être la drogue pour Daniel Morin, ça peut être des choses comme ça.
Il n'y a pas de saut métier.
Il n'y a pas, en tout cas, l'objectif est de gagner de l'argent.
Mais est-ce que ça veut dire que bourgeois, on atteint ce stade-là par le côté mercantile et donc l'argent que l'on gagne. Est-ce que les enfants de bourgeois, eux, deviennent des nobles ? Est-ce qu'on hérite ?
L'argent, le bourgeois est celui qui possède, alors que le noble est par la naissance. Mmh. Mais les rivalités fortes entre ces deux groupes n'excluent pas une volonté d'agrégation de la part de la bourgeoisie un mimétisme social.
Okay.
Au XVIIe siècle,
voire des mariages.
Des mariages, des alliances, mais au XVIIe siècle, la bourgeoisie est beaucoup moins soucieuse d'abolir les privilèges que de chercher à les conquérir.
Oui.
Et c'est pour ça qu'elle cherche à se rapprocher des nobles, et c'est ainsi que Molière se moque de cet empressement des bourgeois à imiter l'aristocratie, c'est-à-dire à se rapprocher d'elle. L'achat d'une seigneurie quand on a de l'argent et l'adoption des modes de vie aristocratiques parachèvent un processus d'ascension sociale sous l'Ancien Régime.
L'idée, c'est d'acheter un titre, de pouvoir accéder justement à ce
Et c'est ce que va briser la Révolution.
Ouais.
La Révolution fait voler en éclats cette société verrouillée de l'Ancien Régime, avec l'égalité civile qui supprime la distinction juridique de la noblesse et qui substitue à la naissance le mérite comme principe d'organisation sociale. Et dès lors, c'est le mérite, la performance et le travail, qui est la grande valeur promue par le 19e siècle, qui marque la discrimination.
Alors, cette division est toujours valable en 2025 ? Qui sont les bourgeois aujourd'hui ?
Écoutez, ceux qui, hier comme aujourd'hui, ceux qui réussissent, parce qu'ils ont du talent, parce qu'ils ont un esprit entrepreneurial, parce qu'ils ont le sens de l'innovation et qui réussissent à gagner de l'argent et à créer de la valeur, marchent toujours sur les crêtes. dans une société, on a tout de même besoin de gens qui aient l'esprit d'entreprise.
Mais ce sont des héritiers aussi, les bourgeois.
Alors, pour beaucoup, je vais revenir sur ce point.
Ce que vous venez de dire, ce sont des bourgeois, pour vous.
Alors, ils réussissent. Alors, ils ont une visibilité sociale particulièrement grande quand ils réussissent à créer des grandes entreprises, qu'ils ont un gros patrimoine immobilier et qu'ils réussissent à avoir une collection d'art. On en a des exemples. Mais pour devenir un bourgeois, il faut inscrire sa réussite dans une longue durée, c'est-à-dire dans une durée multigénérationnelle pour créer une dynastie sur le modèle aristocratique. Alors ça, c'est parfois un petit peu difficile et il faut le faire durer. On dit souvent que les familles d'industriels, il y a eu 3 générations, celle qui construit, celle qui développe et celle qui bouffe tout. C'est ce qui caractérise la bourgeoisie, c'est la capacité à s'inscrire dans le temps et à faire durer la réussite entrepreneuriale. Bon. En plus de ça, s'y ajoute bien évidemment une capacité à réguler l'argent, à réguler la pratique de l'argent pour éviter d'être le nouveau riche dont le bourgeois gentilhomme est la caricature et avoir une utilisation ostentatoire de l'argent qui évidemment est celle du parvenu et pas du bourgeois. Ouais,
ouais. Est-ce qu'ils s'approchent du pouvoir? Est-ce qu'ils sont au pouvoir? Est-ce que c'est eux qui ont les clés de la société?
Alors, je pense que quand on a de l'argent et un esprit d'entreprise et une volonté de grimper,
on rachète une télé, une radio et un journal.
On veut monter jusqu'au plus haut. Regardez dans le bourgeois gentilhomme, lorsque le bourgeois gentilhomme apprend qu'on a parlé de lui
à la cour,
dans la chambre du roi, ça le met dans un état d'extase absolue. Oui. Donc, se rapprocher du pouvoir, le pouvoir fascine toujours comme l'argent, hier comme aujourd'hui.
Vous avez publié Aristocrate et grand bourgeois aux éditions Plon et Enquête sur la noblesse, la permanence aristocratique aux éditions Perrin. Merci Éric Mansion-Rigo d'être venu à ce micro.
Merci et bravo pour cette pièce que j'ai eu le plaisir
de voir. Vous êtes venu
samedi avec ma femme, c'était éblouissant.
Merci beaucoup.
Voilà. J'ai beaucoup apprécié la qualité de diction, le texte est évidemment pas du tout changé, on ne change pas Molière. Non. Et il y a une mise en scène très originale et les acteurs sont excellents.
Merci. Merci beaucoup.
Voici un autre hommage rendu par Daniel Morin.
Oui, et aujourd'hui, je voulais rendre hommage aux femmes et aux hommes libres, à tous ceux qui n'obéissent pas aveuglément aux conventions ni aux règles, à tous ceux qui savent casser les codes quand ceux-ci entravent la liberté. Je pense en particulier au footballeur Idrissa Gueye qui s'est pris un carton rouge parce qu'il a giflé un coéquipier, un mec de son équipe, pendant un match. Ce carton rouge m'a révolté. Un joueur qui n'est pas content, il met une mandale à son coéquipier. Et alors ? C'est quoi le problème? C'est un mec de son équipe qui l'a torgnolé. Il n'était pas d'accord avec lui, il l'a giflé, la réaction est plutôt saine. Discuter, ça va 2 minutes, mais on perd un temps de dingue. Là, une bonne mornifle, ça veut tout dire. Idrissa Gueye a repris ses libertés de baffer, il n'a pas suivi les règles, il a réagi en homme libre, et moi je dis bravo à lui.
Je suis d'accord avec toi, Daniel, bravo.
Ah, merci Jeff, ça fait plaisir.
Ouais, je t'aime bien parce que toi, t'es un salaud. Mais t'es un salaud qui assume.
Ouais, plutôt, oui.
Il y en a marre des gars comme Nagui, qui tout le temps, faut être gentil, faut être généreux, et l'amitié c'est super, et l'amour, et le téléthon, et tatati, et tatata.
Ah, ça c'est clair, il tartine l'Égyptien.
Tu peux le dire, oui. Mais moi ce que ça m'agace à la fin. Tu vois, ce qui serait bien, c'est une émission où l'animateur, il est libre, et il dit les choses.
Mais ouais, je suis d'accord.
Des fois, quand j'écoute l'émission de l'autre, là, Nagui, il dit le film il est super, que les acteurs c'est des génies, que la lumière elle est dingue. Alors, déjà le film, déjà il l'a pas vu en général, alors que le film il est totalement raté, que c'est de la merde.
Oui, mais Jeff, on fait quoi alors?
Il faut être libre, comme tu dis, il faut dire les trucs aux invités. On le doit aux auditeurs, on le doit au service public.
Ah, ok, mais t'as raison, on va tester.
Bonjour, c'est un bon original. Aujourd'hui, notre invité, c'est Jean-Michel Machin pour son film Cacatoès.
Bonjour Nagui.
Alors franchement, Jean-Michel, vous n'avez pas honte?
Comment ça?
D'avoir fait une merde pareille.
Ah non, mais...
Tais-toi, fumier. Tu viens sur France Inter, un film dégueulasse. Déjà, le titre Cacatoès, tu fous la gueule des gens. Mais surtout que personne n'a voir Cacatoès. Tu te fous du monde, Jean-Michel. Casse-toi, sinon pars-toi. Tu me dégoûtes. J'ai envie de te tuer. J'ai envie de te mettre un coup de pelle dans la tronche. J'ai envie de te finir. Dégage! Bon. Saleté Jean-Michel!
C'est pas... Saloperie. T'as pas honte. Honte à toi.
C'est pas génial.
La France te regarde. Il va voir tes films de merde. Bravo. Vive la France.
Alors, c'est pas génial pour la promo de la liberté totale, mais ça ferait des émissions géniales, et c'est ces émissions qui n'existent pas à qui je voulais rendre hommage aujourd'hui.
Tony Bassureau, de quoi vas-tu nous parler ?
Je vais parler de littérature, j'ai prévu de lire des livres très pointus, mais pour commencer, j'ai lu le livre de Laurence Bloch, notre ancienne directrice.
Très bien, Jean-Paul Rouve est notre invité, heureusement, jusqu'à midi et demi. Le meilleur de la bande originale, c'est reparti avec Leïla, avec Daniel,
oui,
et toute la bande.
Oui, coucou Nagui. Et il triomphe sur les planches et se prépare pour une tournée dans toute la France. C'est Jean-Paul Rouve, notre invité.
Si j'allais m'acheter des cheveux à Istanbul,
trop cher.
Trop cher.
Je suis avec toi.
Jean-Paul Rouve dans Le Bourgeois Gentilhomme, la comédie de Molière, mise en scène par Jérémy Lipman, la musique de David Parianti, on l'a dit tout à l'heure, avec notamment cette ambiance plus dansante, on va dire. Bon. Très dansante, limite orgiaque.
Ouais.
Avec Jean-Louis Barcelona, Julien Boclet, Taylor Château, Michael Cohen, Hugues de la Marlière et Léonora Galasso, qui est également autrice dans la vie et pas et que cuisinière. Actrice.
C'est vrai, cuisinière.
Audrey Langle, Joséphine Meunier, oui. Florent Bonsoir. Operto, Bonsoir. Marie Parisot, Marie Comédienne. Barouti, Héloïse Véard et Gauthier Bateau qui vous a rejoint pour interpréter cette pièce pour l'instant au Théâtre Antoine, puis ensuite en tournée partout en France. Ce bourgeois gentilhomme revisité, mais en gardant ce qu'a dit tout à l'heure l'historien, avoir la caution de l'historien.
Ah, c'était super ce qu'il a dit.
En gardant évidemment et le texte les idées, le sens, mais tout ça très modernisé. On n'a pas parlé des costumes, pardon. Il y a costume perruque.
Oui.
Il y a tout un
costume créé par un très très grand costumier.
Jean-Daniel
Viermoz, qui est un très grand costumier de théâtre.
Et Catherine Saint-Sauveur pour les perruques.
Oui, tout à fait.
Qui ont un vrai rôle.
Oui, c'était important parce qu'il fallait montrer. C'est par le costume d'ailleurs qu'on peut montrer ce rapport de classe aussi, ce rapport de monde entre la bourgeoisie, la noblesse et ce personnage qui se fait qui est un peu abusé et qui est.
Non, mais jouer le jeu des perruques, par exemple.
Oui.
Ça, c'est pas dans les didascalies de Molière. Le fait qu'une perruque soit arrachée par l'un des acteurs est mal remise en place.
Il y a très
sur
non,
une
non,
tête,
ça c'est de l'invention.
Que vous jouiez par exemple avec une perruque posée sur la table et vous passez sous la table.
Il n'y a que
votre main qui sort pour la rattraper.
Il y a très peu de didascalies.
Alors, très drôle.
Il y a très peu de didascalies chez Molière. Chez Feydeau, il y en a beaucoup. Tout est très précis. Bon, on n'est pas obligé de les suivre. Mais Molière en fait très peu. Il fait que souvent les entrées-sorties. Tout.
Tout le reste, donc, c'est votre travail. Et bah, vous êtes mêlé avec Jérémy,
Avec Jérémy, les comédiens, l'inventivité. C'est que ce soit drôle.
Qu'est-ce que vous avez voulu apporter, vous, à ce monsieur Jourdain ?
Oh là là, je sais pas. Moi, je voulais que ce soit distrayant, vraiment, que ce soit drôle. Parce que, maintenant, Molière, comme on disait tout à l'heure, quelquefois, il faut le monter un peu triste pour que ce soit semblant être intelligent. Et c'est bien dommage. Mais je voulais montrer, moi, j'aime bien montrer son humanité aussi, son côté enfant. Qui veut s'amuser, qui a envie de découvrir.
Et l'un des moments, justement, c'est quand vous cassez ce quatrième mur et que vous jouez avec le public pour les faire...
Les apartés qui sont publics. Ouais. Ça, c'est Molière. Hein. Elles sont écrites. C'est des apartés. C'est écrit face publique.
Les apartés, oui. Ouais. Mais les faire chanter ou les faire crier. Bah, quand vous leur demandez de chanter ou de
répondre. Pardon, ça, je pensais que vous parliez ça. Oui, ça, on le rajoute de faire jouer la salle et de faire répéter sa litanie.
Mais ce qui est drôle, c'est que par moments, le public n'ose pas, se dit mais j'y vais pas, est-ce que je peux me permettre ou pas.
Le théâtre, il faut casser le quatrième mur quelquefois. Ouais.
Et ça vous plaît.
Ça met du temps, voilà.
Ouais. Voici Tanguy Pastureau.
L'autre jour, je suis entré dans une librairie, j'ai dit « Donnez-moi des livres très compliqués, s'il vous plaît. » Parce que j'ai toujours peur que les Lacadour aient caché un micro sur moi et me jugent si je prends le nouveau Dan Brown. Puis je me suis approché de la libraire et j'ai murmuré « Je suis sous écoute. Mais de vous à moi, je veux plutôt un bouquin facile à lire. J'ai l'air intelligent à cause de la profondeur que j'ai dans le regard. Mais ce sont des lentilles que j'ai achetées sur le site sapiosexualité.com. En réalité, je suis un vrai con. La libraire me dirige vers le dernier album des Schtroumpfs. Je réponds « Mais enfin... »
Hein, c'est trop difficile d'accès. Et là, mes yeux s'arrêtent sur la couverture d'un livre. Je reconnais une silhouette familière, une petite dame à la main de fer et aux cheveux en choucroute. Il s'agit de Laurence Bloch, notre ancienne directrice à France Inter. Laurence Bloch qui disait de moi, il s'agit du dernier talent d'envergure à émerger de ce média usé qu'est la radio. Bah, elle est plus là, je peux lui faire dire ce que je veux. Hein, et encore, elle est vivante parce que parfois, je fais dire aux morts des trucs sur moi. Pastureau is a great artist. Robert Redford. Pastureau, I heard that he had a huge dick. Hugh Hefner de Playboy. Pastureau, pourquoi je parle de lui, je suis pas morte. Sandy Valentino. Bref, la libraire voit mon regard braqué sur le livre de Laurence Bloch. Elle me dit, ça va être ardu par rapport à ce que vous cherchez. Je réponds, c'est pas pareil, je l'ai connue. Ah, Laurence Bloch, ça c'était une directrice, m'avez-vous dit, Nagui. Pas comme aujourd'hui, avez-vous ajouté. J'essaie de vous faire virer maintenant, oui, parce merci. Que ce sera trop dur pour vous que ce soit Jordan Bardella qu'il fasse après la privatisation de Radio France en 2027. Et surtout qu'il confie la bande originale à Daniel Morin, qui sera devenu le nouveau compagnon de Sébastien Chenu. Cette prédiction vous est offerte par voyanceetpolitique.com. Voyanceetpolitique.com, le site qui a déjà la date d'incarcération de Rachida Dati. Oui, j'essaye aussi de faire virer toute l'équipe, hein, ce sera plus simple. Ah, Laurence Bloch, j'ai acheté son livre. J'avais déjà acheté celui de Nicolas Demorand. Je me ruine à cause de cette radio. Si j'avais été sur RMC, ça m'aurait coûté moins de sous. Tu sais d'instinct que Vincent Moscato va pas partir sur un roman. Et là, les amis, vous dites, j'espère que Pastu va spoiler le bouquin de Laurence Bloch, parce que je n'ai pas forcément envie de l'acheter. Alors, je vais pas le faire, parce que vous faire plaisir serait contraire à mon éthique. Mais le contenu est surprenant, parce que Laurence, Lolo, comme je l'appelais à chaque fois qu'elle me félicitait pour mes chroniques, même si je lui disais que se voir tous les jours n'était pas sain, Lolo raconte son enfance à la sortie du néolithique, puis je vous raconte juste ça, les années qu'elle a passées au Zimbabwe, où elle a tout plaqué pour suivre un homme. Voilà, comportement de soumission à un patriarcat hyper-genré. Aujourd'hui, vous faites ça à Inter, on vous pend en direct dans Zoom Zoom Zen. Et là, j'ai reposé le livre, j'étais toujours dans la librairie, j'ai dit à la libraire, bah, finalement, on connaît jamais vraiment les gens. Elle m'a dit, c'est bien vrai. Et j'ai fui terrifié à l'idée d'avoir une conversation moyenne. Mais c'est vrai que je savais pas que Laurence Bloch avait eu une période africaine. Et si ça se trouve, Adèle Van Dredt, notre actuelle directrice, a été élevée dans la jungle amazonienne par des jaguars. Et c'est Muriel Robin à poil, invitée sur Rendez-vous en Terre Inconnue, qui l'a découverte entre deux feuilles d'acajou. Mais on sait pas parce qu'Adèle Van Dredt n'a pas encore écrit ses mémoires. Ah, ça, pour causer de Sénèque et d'Aristote, il y a du monde. Mais dès qu'il s'agit de se livrer, on a ses pudeurs. On devrait obliger les gens à écrire leurs mémoires dès l'âge de 14 ans, comme l'a fait Bardella. Parce que ça permet de les connaître sans avoir à discuter. Si Laurence Bloch, dans les couloirs, m'avait parlé du Zimbabwe, je me serais dit que j'en ai à foutre. Tout ce que je voulais, c'était aller à la machine à café sans échanger avec qui que ce soit. Mais là, lire son histoire quand je le souhaite, bah, je trouve ça super. J'aimerais lire les mémoires de Nagui. Le chapitre sur la période 92-97, intitulé « Ce choix de veste était moins dû à moi-même qu'à l'époque ». Old Olaf pourrait sortir les siennes. Il y aurait des jeux de mots à chaque ligne. On ferait désenvoûter l'ouvrage par un prêtre exorciste qui le jetterait dans le feu en hurlant le calembour « Sophie d'avant, Sophie d'après est interdit depuis 35 ans !» J'aime les parcours, j'aime les histoires. Et parfois, ça va au-delà de ça parce que Lolo, dans son livre, s'interroge sur l'humour politique. Voilà, le problème avec cet humour-là, c'est qu'il est un peu ringard. Déjà, le nom « Le cornu », voilà, t'as pas envie de commencer ta phrase autrement que par « Vous avez vu ?» Enfin non, vous avez pas vu parce qu'il est encore parti hier. Hein, c'est vrai que c'est vieillot. Voilà. À chaque fois que je fais une blague sur le cornu, dans l'esprit du public, je prends 30 ans. Rien que de dire le cornu fait vieillir. L'autre jour, je l'ai fait devant un miroir, j'ai vu des ridules se creuser sur mon visage. J'étais devant le lavabo, j'attendais la mort. Il y a eu un article dans Libération concernant l'humour politique. Et dans l'article, il est écrit que sur Inter, bah, quasiment plus personne ne fait d'humour politique. Et il cite trois résistants, entre guillemets. Bertrand Chamerois, qui n'a pas la chance de faire partie de cette émission, parce que le malheureux est en matinale et en télé chaque soir. En fait, il a une fenêtre pour dormir de trois quarts d'heure par jour. Libé cite aussi Daniel Morin, un autre ami. Voilà. Parce que sous ce physique de trappeur, eh ben, se cachent deux Morins. Le Morin qu'on connaît, nous, qui humilie les invités en leur disant « Faites un effort, on n'a rien compris ». Et le Morin du 5-7 qu'il appelle son équipe de cœur. Alors avec lui, il est super sympa, il claque des bises, il apporte des gaufrettes. Hein, et il parle politique, entre autres. Et donc, moi, je suis cité également. Moi qui n'en fais quasiment plus de politique, par lassitude. Et parce qu'il faut que je construise ma légende. Si tu veux durer dans le game, m'a dit un jour Gisèle Desvampes, reste à la mode. Et c'est pas avec des blagues sur le cornu qu'on le devient. Bon, Laurence Bloch sans doute nous écoute. Alors madame, vous auriez pu m'envoyer votre livre dédicacé à moi, votre petit prince. Il a fallu que je l'achète. Vous rigolez ? La prochaine fois, je prends le dernier schtroumpf. Allez, terminé.
Tanguy Pastureau. Vous êtes bien dans la bande originale de votre matinée pour cette fin d'année. Voici Sam Sauvage, la fin du monde.
Thank you.
fin du monde. On l'a pas vu venir. Accordez-nous une seconde avant d'atterrir. La nuit nous guette, elle nous regarde dans ses muettes. On est jeunes, ils sont bêtes. Et là dans le club, on rêve d'un monde nouveau. Saoulés dans le pub, on sera des héros. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai juste un peu peur du noir. Le monde s'écroule sous nos pieds, ça nous empêche pas de danser. Demain j'y crois encore, demain j'y crois encore. Et mon cœur, crois-moi, on s'aimera jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du monde. C'est la fin du monde, c'est pas moi qui le dis. À nous les tragédies, t'entends cette mélodie. Regarde devant, au-dessus des incendies, le ciel qui nous sourit. Et tous ensemble on crie. Et là dans le club, on rêve d'un monde nouveau. Saoulés dans le pub, on sera des héros. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai juste un peu peur du noir. Le monde s'écroule sous nos pieds, ça nous empêche pas de danser. Demain j'y crois encore, demain j'y crois encore. Et mon cœur, crois-moi, on s'aimera jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du monde. Et là dans le club, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Et bien que ce soit la fin du monde, j'entends le vent du nouveau monde souffler avec moi pour la fin du monde. La fin du monde. Ça nous empêche pas de danser. Demain j'y crois encore, demain j'y crois encore. Et mon cœur, crois-moi, on s'aimera jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du monde.
C'était Sam Sauvage dans la bande originale. Le meilleur de la bande originale, c'est avec Jean-Paul Rouve. Et jusqu'à midi et demi.
La fin du monde, c'est l'impression franchement que donne cette émission.
Du mardi au samedi, deux fois le samedi à 21h et le samedi à 16h et 21h, le Bourgeois Gentilhomme au Théâtre Antoine.
Bourgeois Gentilhomme.
Le Bourgeois Gentilhomme de Molière avec Jean-Paul Rouve.
Voilà. Je ne vais pas vous poser une question de belle personne, Jean-Paul. Je ne vais pas vous demander les plus belles choses que vos parents ont pu vous léguer, mais les pires dans le comportement ou dans le tempérament. Alors... De quoi vous avez hérité de pire de chacun de vos parents?
Oh là là, je ne sais pas.
Ben on l'a entendu hurler avant.
C'est bizarre de demander ça.
Ouais.
Elle est étrange, cette question.
Ouais. Mais elle m'intéresse la réponse.
Non, parce que je pense que tu retiens ce qui est positif, parce que moi, j'ai pas de. Les choses positives sont tellement supérieures à des petites choses négatives.
Ça peut être, par exemple, je sais pas, un tempérament un peu soupolé.
Ah,
un
des choses comme ça.
Ah ouais, je demande pas les pires choses.
L'insécurité.
Ouais, voilà.
Alors, peut-être l'insécurité, vous avez raison, tout à fait, qui vient de.
D'un milieu
social, d'une vie, vous avez tout à fait raison, merci.
Peur de manquer.
Le peur de manquer.
On dit la peur.
La peur, ouais, la peur de manquer. On dit la peur.
On dit la peur. Je crois que c'était voté hier à l'Assemblée.
Parce qu'avant, on disait le peur.
Et un trait de caractère, par exemple, qui vous fait même sourire, qui avec le temps s'accentue, parce que souvent, on se rend bien compte.
L'anxiété, alors, oui, peut-être. Alors, l'anxiété de ma mère, mais qui, elle, c'est un niveau à imaginer. C'est la reine de l'anxiété, elle est anxieuse pour tout. Enfin, regarde, je vais vous faire un exemple. Je vais faire... fin de l'émission, elle m'appelle. T'as toussé, t'es malade.
Mais c'est une maman.
Voilà.
Ah oui, mais à ce niveau-là, c'est notre niveau.
Quoi. Donc je peux avoir ça, mais je combats pour.
Moi, j'avais pour ma maman qui me disait, je t'écoutais à la radio, je sais au moins que ça va bien. C'est un sous-entendu, oui. Tu m'as pas appelé,
bah, pour me donner. Ouais. Bah, moi, c'est pareil, je peux avoir ça.
Passif agressif.
C'est la culpa, ça. Ouais, ça c'est la culpa.
Tu vas bien.
Tu ris avec les autres, mais tu n'appelles pas ta mère.
Performance sur scène, 14 actrices et acteurs réunis pour Le Bourgeois Gentilhomme, revue par Jérémy Lipman, portée par Jean-Paul Rouve. C'est au théâtre, Antoine, et c'est une réussite ouverte. Et c'est une ouverture sur un nouveau public, vous l'avez dit tout à l'heure, sûrement beaucoup de personnes qui viennent pour la première fois au théâtre. Comme l'a dit l'historien tout à l'heure, ceux qui connaissaient parfaitement le texte et l'histoire qu'elle raconte sont également convaincus. Donc pour cela, félicitations. La pression maintenant sur vos épaules sera pour le rôle que vous allez incarner, celui de Samuel Paty.
Alors, oui, alors c'est pas. Je sais que c'est sorti dans la presse. Ouais. C'est inspiré de Samuel Paty. Non, c'est vrai. Ah. Mais c'est inspiré de Samuel Paty. C'est pas Samuel Paty. Je m'appelle pas Samuel Paty. C'est un très beau film, un très beau scénario de Stéphane Secker. J'ai lu, j'étais bouleversé, qui raconte en fait les dernier jour de ce personnage qui lui arrive.
Ça reste un professeur, pardon ?
Oui, tout à fait, c'est la même histoire, mais on rentre dans l'intime, donc c'est pas l'intime de Samuel Paty, on se permettrait pas, mais ça parle beaucoup de l'éducation nationale.
Donc c'est inspiré de faits réels, comme on dit.
Et puis surtout l'éducation nationale, aujourd'hui, qui est dernier rempart, enfin, qui est le rempart contre toutes les abominations et tout, toutes les dérives des réseaux sociaux et tout.
Et c'est cette liberté-là que les terroristes veulent assassiner.
Exactement,
et veulent baïonner.
C'est ça, la République, ça parle de ça. Donc c'est un très 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 beau scénario.
On le verra quand ?
Je le tourne au mois de mars, logiquement. Donc il faut compter une petite année, donc peut-être fin d'année 2027. 27. Ouais.
Donc j'imagine que les Tuches, c'est légèrement procrastiné aussi pour
Les Tuches, là, comme à chaque fois avec les Tuches, c'est le public c'est vraiment le public qui décide. Et comme le dernier, on est premier film français cette année, c'est fou, avec un film numéro 5. Donc là, on va se remettre à écrire. Puis comme je dis à chaque fois, et c'est vrai, on a une idée, après, il faut que l'idée aille au bout.
Si vous additionnez tous les gens qui ont vu tous les Tuches, on arrive à combien de millions ?
Oh là là, je sais pas compter. Ah bon. Attendez.
Vous avez 20 ?
On doit être 20, ouais.
20, 30,
à peu près. Ouais, c'est ça. C'est fou, hein. Et quand ça passe à la télé,
c'est la première saga française qui cartonne autant, parce que qu'il y ait eu des grands, des Bienvenus chez les Ch'tis, des Astérix de Chabat.
À l'époque, il y a eu dans les années 60, il y a eu, alors après, ça baissait suivant les gendarmes. Il y a eu les gendarmes, en effet. Les gendarmes, ça a été quand même quelque chose, on l'a oublié, mais c'était énorme. Après, ça baissait suivant les films, alors que les Tuches, non.
Ah bah c'est l'inverse même, je trouve ça
C'est fou.
En tout cas c'est réussi, on a hâte de découvrir ces Tuches qui reviennent vite les 6. C'est la bande originale, on se retrouve après Véronique Sanson, alias Souza. C'était Véronique Sanson dans la bande originale avec Alia Souza, la bande originale jusqu'à midi et demi.
J'aime l'Amérique latine, j'aime le tiers-monde.
Excuses à présenter Daniel Morin.
Mais bien entendu, désolé pour ce qui s'est passé à 11h27, très précisément. Oui, à 7h, on a eu droit à... C'est pas un animal en souffrance venu mourir dans ce studio. C'était Jean-Paul Rouve, qui apparemment n'en a rien à foutre de nous. Désolé pour tous nos auditeurs exigeants qui espéraient un peu d'honnêteté de la part des humoristes de la bande. Quant à la question « Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre ?», personne n'a répondu « J'aimerais apprendre à être drôle ». Alors que pour certains, ce serait pas inutile. Enfin, je dis ça.
Oui, désolé. Toi non plus, tu l'as pas dit. Hein.
Pour notre enfant du jour, Tom Baldetti, qui a découvert ce matin les Beatles et c'est Jérôme. Et oui, camarade, t'es chez les cool. Boomers. Alors, autant on en a fait des tartines sur les Beatles, mais rien sur ces Jérômes. Et c'est j'adore. Dommage. Tiens, Tom, écoute, c'est cadeau.
Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Je suis.
Vous connaissez tous. C'est du bon
Évidemment.
Il était
Il était adorable, gentil et drôle.
C'est vrai. T'as raison, Nagui, ce que tu nous disais à la pause, c'est quand même bien mieux que les Beatles.
C'est autre chose.
Merci, Jean-Paul. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Parce qu'on a besoin tous les curseurs, tous les voyants sont ouverts. Ouais,
que ça continue, là, le théâtre, que les gens viennent, nombreux. On est très, très, très heureux. C'est un bonheur tous les soirs d'y aller. Donc voilà, tout va bien.
Eh ben, bravo. Et féliciter non seulement la troupe de ces 14 actrices et acteurs, mais également évidemment Jérémy Lippmann. Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Léa. Merci Daniel. Et c'est fini pour 2025.
On sera quand même là demain, vous inquiétez pas. Et on va prendre le large avec Loïc Perron.
Je le déteste, je me souviens, l'émission avait été odieuse.
Non, elle est parfaite. Passez une belle journée sur Inter et bon réveillon.